Je continue donc, après avoir encore eu de nouveau un problème avec l'enregistrement, je vous prie de m'excuser. Je continue donc directement là où j'en étais, avec l'explication de l'encyclique Testem Bene Volentiae du pape Léon XIII, condamnation de l'américanisme. On voit très bien là la bonne doctrine du pape, doctrine magistérielle qui s'oppose à ses erreurs politiques. Rappelez-vous ce que je viens d'expliquer auparavant, en fin de la conférence précédente, sur les explications du père Barbier. Je vous donne les passages principaux de cette encyclique qui est extrêmement actuelle parce qu'elle permet d'éviter aussi les tentations d'activisme dans lesquelles nous tombons tous. C'est une encyclique qui a été donnée par le pape Léon XIII le 22 janvier 1899, la 21e année de son pontificat, adressée au cardinal Gibbons, qui était évêque, archevêque de Baltimore. Je vous donne les passages étrangers, les passages les plus importants. Donc, pour signaler, dit le pape, quelques écueils à éviter et certains points à corriger. Pour amener, dit-il, plus facilement les dissidents à la vérité catholique, voilà ce qu'il cite ici, il explique le principe de ces opinions nouvelles dont nous venons de parler, qui peuvent se formuler à peu près en ces termes. Donc c'est une explication d'un principe condamné par l'Église. Voilà ce principe condamné par l'Église, par Léon XIII, pour amener ceux qui lisent, pour amener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme, et que se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, beaucoup l'étend non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi, et soutient en effet qu'il est opportun pour gagner les cœurs des égarés de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Donc on voit bien ici que le pape condamne ceux qui disent qu'en quelque sorte il faut faire une distinction entre les dogmes importants et les dogmes secondaires. On se met d'accord sur les dogmes importants, les dogmes secondaires, on les place dans le tiroir quelque part, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'Église. Donc le pape dit qu'il ne faut pas que l'Église se relâche de son ancienne rigueur et qu'elle n'a pas à se montrer favorable à ses aspirations aux théories des peuples modernes. Et plus tard, il va expliquer. En parlant des américanistes, ils pensent qu'il faut introduire une certaine liberté dans l'Église afin que la puissance et la vigilance de l'autorité, étant jusqu'à un certain point restreinte, il soit permis à chaque fidèle de développer plus librement, son initiative et son activité. Ils affirment que c'est là une transformation nécessaire, comme cette liberté moderne qui constitue presque exclusivement à l'heure actuelle le droit est le fondement de la société civile. Nous avons traité longuement de cette liberté dans notre lettre sur la constitution des États adressée à tous les évêques. Et nous y montrions même quelle différence il y a entre l'Église qui est le droit divin et les autres sociétés qui ne doivent leur existence qu'à la libre volonté des hommes. Puis il précise, il essaie d'expliquer ce qu'est l'américanisme et il dit: un rejet de toute direction extérieure comme étant superflu et moins utile pour ceux qui veulent tendre à la perfection chrétienne. L'Esprit Saint, disent-ils, répand aujourd'hui dans les âmes fidèles des dons plus étendus et plus abondants qu'autrefois. Il les éclaire et les dirige sans intermédiaire par une sorte de secret instinct. Sans doute, le secours de l'Esprit Saint est absolument nécessaire, dit le pape Léon XIII, surtout pour la pratique des vertus, mais ces amateurs de nouveautés vantent outre mesure les vertus naturelles, comme si elles répondaient davantage aux mœurs et aux besoins de notre temps, et comme s'il était préférable de les posséder parce qu'elles disposeraient mieux à l'activité et à l'énergie. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache étroitement une autre opinion qui partage comme en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les vertus passives et les vertus actives, suivant leur expression. Les américanistes ajoutent que les premières Les vertus passives, donc, convenaient mieux au siècle passé, tandis que les secondes, les vertus actives, sont mieux adaptées au temps présent. Or, le Christ, dit le pape Léon XIII, ne change pas avec les siècles. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera dans tous les siècles. C'est donc aux hommes de tous les temps que s'adresse cette parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il n'est pas d'époque où le Christ ne se montre à nous comme s'étant fait obéissant jusqu'à la mort. Elle vaut aussi pour tous les temps cette parole de l'apôtre. Ceux qui sont disciples du Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Plût à Dieu que ces vertus passives fussent pratiquées aujourd'hui par un plus grand nombre, avec autant de perfection que les saints des siècles passés. Ceux qui, par leur humilité, leur obéissance, leur austérité, ont été puissants en œuvre et en parole, pour le grand bien non seulement de la religion, mais encore de leurs concitoyens et de leur patrie. Nous ne pouvons approuver ces opinions, dit le pape, dont l'ensemble est désigné par plusieurs sous le nom d'américanisme. Si par ce mot, dit-il, on veut entendre certains dons de l'esprit qui honorent les peuples de l'Amérique comme d'autres honorent d'autres nations, bien encore si on désigne par là la constitution de vos États, les lois et les mœurs en vigueur parmi vous, il n'y a rien là assurément qui puisse nous le faire rejeter. Mais si on emploie ce terme non seulement pour désigner les doctrines ci-dessus mentionnées, mais encore pour les exalter, est-il permis de douter que nos vénérables frères, les évêques d'Amérique, seront les premiers avant tous les autres à le répudier, à le condamner comme souverainement injurieux pour eux-mêmes et pour toute leur nation. Il fait supposer en effet qu'il en est chez vous qui s'imagine et désire pour l'Amérique une église autre que celle qui est répandue par toute la terre. D'où le nom d'américanisme que le pape va donner à ces tendances dangereuses. Donc, signé par le pape Léon XIII le 22 janvier de l'année 1899. Et donc, ces tendances américanistes seront condamnées par le pape Léon XIII. Encore une fois, au niveau du magistère, il n'y a rien à dire. Tout est parfait. C'est au niveau politique qu'il y a des choses qui n'allaient pas les toucher Léon XIII. C'est ça le problème. Alors, continuons donc les explications données par l'abbé Barbier. Il explique que, donc, après avoir expliqué qu'il fallait absolument que la révolution puisse arracher les âmes des enfants à l'Église catholique pour pouvoir obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Donc, la révolution a commencé par les écoles primaires et ensuite s'est attaqué aux écoles universitaires. Une autre campagne, dit l'abbé Barbier, plus perfide, plus dangereuse et déjà engagée, qui a pour but d'enlever à l'Église toute influence sur la jeunesse française. Il s'agit de laïciser l'enseignement à tous les degrés, mais surtout l'enseignement primaire, et d'imposer à la France catholique l'école sans Dieu. C'est exactement ce qui se déploie sous nos yeux dans notre triste république laïque en France. Les sectaires conjurés pour cette œuvre de déchristianisation, savamment calculé que ce moyen, malgré la lenteur de ses effets, était le plus propre à l'accomplissement de leur dessein, car il devait fatalement s'en suivre après quelques générations, une démoralisation, une dissolution profonde du pays. Vous connaissez la formule, changez la façon de penser des gens et vous changez la façon de vivre des gens. Vous changez la façon de vivre des gens, vous changerez la façon de penser des gens. Puis l'abbé Barbier continue, soustraire les jeunes filles à l'influence de l'Église et préparer des mères de famille affranchies de tout préjugé religieux n'importe pas moins ce dessein de la secte que de laïciser les écoles de garçons. La Troisième République n'aura pas laissé d'œuvre plus grosse de conséquences que cette réforme. La suppression de l'enseignement religieux inclus dans la laïcité tient encore plus au cœur du Parti républicain que l'obligation choisie comme moyen de l'introduire. Donc on voit très bien donc la République française, déjà la Troisième République, donc sous Saint-Pédis, était viscéralement laïque. Et donc Macron ne fait que contrecarrer continuer le travail de destruction qui a été fait par ses prédécesseurs. N'oublions pas que c'est De Gaulle qui a osé enlever le nom de Dieu de la Constitution française en 1958. Hein. On voit les conséquences. Alors, l'abbé Barbier cite ici un magnifique texte de Mgr Frepel qui dénonce avec autant de clairvoyance que d'énergie le mensonge de la loi de séparation déguisée d'État, en fait la loi par laquelle l'État vole l'enseignement universitaire des mains, arrache l'enseignement universitaire des mains de l'école catholique. Votre école neutre, dit le Mgr Frepel, votre école neutre, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, deviendra logiquement, forcément, l'école athée, l'école sans Dieu. Elle ne produira que des sceptiques et des indifférents. Elle créera dans les esprits une agitation dont vous ne pouvez pas calculer les conséquences. Il ne faut pas s'y tromper, la loi sur la laïcité des écoles est peut-être l'événement le plus considérable de notre temps. C'est le commencement et le germe d'une révolution dans les idées, dans les mœurs, dont il est impossible encore de mesurer la portée. La direction de ce que l'on pourrait appeler l'âme traditionnelle de la France va changer de main. Aux doctrines d'autorité vont succéder dans tous les domaines celles du libre examen. Les générations qui sortiront de ces écoles nouvelles ne ressembleront plus aux anciennes. Les catholiques, certes, sont unanimes à flétrir la loi, unanimes dans leur dévouement pour la création d'écoles libres, au prix des plus généreux sacrifices, mais ils n'en manquent pas pour désapprouver la résistance effective. Cela s'appuie sur la direction d'autres évêques. Mgr Isoard écrira plus tard « On nous a condamnés à Rome au silence. On nous a ordonné de paraître satisfaits. » Mais ce laïcisme dont parle ici Mgr Frepel, l'évêque d'Angers, donc ce laïcisme peut être vu aujourd'hui. La France moderne, la France de 2019, est une république laïque, c'est-à-dire une république dans laquelle le bon Dieu n'a plus rien à dire en matière politique. Parce qu'il faut séparer, il paraît, disent-ils, l'Église et l'État. Et donc ils ne veulent plus aucune influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la politique nationale. Alors, l'abbé Barbier donc, donne des détails. Je vous les lis parce que c'est quand même bien important pour comprendre ce qui s'est passé. Il va parler de l'action du nonce de Léon XIII en France, Mgr Zacki. Ça s'écrit C-Z-A-C-K-I. Cette action du nonce de Léon XIII en France, Mgr Zacki, et son attitude si modérée et gracieuse à l'égard des hommes du pouvoir, si peu encourageante pour les catholiques disposés à la résistance, ne varie pas pendant la période des lois scolaires. On sait que Léon XIII avait formé dès le début la résolution de gagner la République en amenant le clergé et les catholiques à renoncer à une attitude intransigeante envers elle, et nul n'était plus persistant dans ses desseins que ce pape. Rappelez-vous, ce fut tout le travail de Léon XIII qui a abouti aux monstruosités de 1892, du ralliement. Paul Bert, un ennemi de l'Église, disait « Commençons par changer ces conditions pour préparer le triomphe futur de l'opinion que nous combattons aujourd'hui. Commençons par enlever à l'Église l'autorité factice qu'elle a prise dans le pays. Exigeons d'elle l'obéissance aux prescriptions concordataires qu'elle a stipulées elle-même. Enfin, attendons le jour où l'éducation publique, et particulièrement celle des femmes, est préparée des esprits capables de supporter avec fermeté la période d'établissement de la liberté religieuse. » Donc Paul Bert est parfaitement compris avec tous les libéraux de l'époque, les laïcs anticatholiques, que cette ouverture accordée par Léon XIII allait permettre la séparation de l'Église et de l'État, et donc d'arracher complètement l'enseignement des mains de l'Église en France. L'abbé Barbier cite un autre texte de 1883 de Grévy, qui est président de la République, à Léon XIII. Je ne puis malheureusement que fort peu sur les ennemis de l'Église. Votre sainteté peut beaucoup sur les ennemis de la République. Si elle daignait les maintenir dans cette neutralité politique qui est la grande et sage pensée de son pontificat, elle nous ferait faire un pas décisif vers un apaisement si désirable. Toutefois, grâce au temps qui amène avec lui la réflexion et l'expérience, grâce aux dispositions que manifeste le Parlement, grâce aux efforts du gouvernement qui est animé des sentiments les plus modérés et les plus conciliants, il est permis d'entrevoir des jours moins difficiles. Et voilà le passage important. Si votre sainteté daigne persévérer dans l'attitude que sa bienveillance et sa haute intelligence des choses et du temps présent lui ont fait prendre, aux applaudissements respectueux de tous les amis éclairés de la religion et de la paix publique, si la partie hostile du clergé finit par désarmer, nous avons l'espérance de voir tomber bientôt ces regrettables débats et d'arriver enfin à une heureuse pacification. Donc, les ennemis de l'Église avaient compris que Léon XIII était la seule personne qui avait suffisamment d'autorité pour imposer silence à tous les antilibéraux français, qui étaient tous monarchistes et fortement anti-républicains et anti-maçonniques. Donc, pourquoi? Parce qu'on a vu que la forme républicaine, la forme démocratique du gouvernement ne répugnait pas au pape Léon XIII. C'est cette admiration pour la démocratie qui va faire tellement de mal à Léon XIII. Donc cette forme républicaine lui inspirait plutôt de la sympathie. Tout autre était dans ces années les sentiments de la grande majorité des catholiques français. La République passait à leurs yeux pour la révolution prolongée. Ils avaient raison. Ils voyaient dans cette forme de gouvernement la réalisation d'une doctrine politique athée dont le catholicisme ne pourrait s'accommoder. Ils enveloppaient dans une même réprobation la Révolution, la République, les lois antichrétiennes, les députés, les sénateurs qui les votaient et les électeurs qui nommaient sénateurs et députés. C'était l'année fortement organisée des ennemis de la foi chrétienne. Il ne pouvait leur venir à l'esprit que Rome les envisagea autrement. Tous les catholiques, presque tous, étaient légitimistes, orléanistes ou impérialistes. Deux évêques seulement, Mgr Guibert à Bordeaux et Mgr Bello des Binières à Poitiers, sont des ralliés, et leur autorité ne laisse pas d'en souffrir. Mgr Lavigerie, Mgr Maignan et quelques autres passent pour indifférents, et l'on se méfie d'eux. Le plus grand nombre est monarchiste, et le clergé l'est avec eux. Mais il faut bien comprendre que ces mêmes idées qui ont amené, malheureusement, Léon XIII à demander le ralliement en 1892, sont les mêmes idées qui ont amené l'Église jusqu'aux portes de Vatican II en 1962. Ce sont les mêmes idées. Alors à l'époque, on avait encore un Léon XIII, même si encore une fois il a fait des grosses bêtises en matière politique, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en matière purement magistérielle, en matière de doctrine, rien à signaler. Mais en matière de doctrine catholique, de doctrine théologique. Et donc, il y avait encore la colonne vertébrale qui était là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes orphelins d'autorité, c'est donc c'est beaucoup plus difficile à cause de cela. Donc, il faut bien étudier ces erreurs du passé pour comprendre les catastrophes du présent. L'abbé Barbier va également citer une très belle lettre de Mgr Freppel à un de ses évêques ralliés à la République, Mgr Bello des Minières, qui était évêque libéral de Poitiers. Je ne me rappelle plus si Mgr Freppel était à Angers ou Poitiers. J'ai un trou de mémoire là-dessus, je pense qu'il était à Angers. Comment, voilà cette lettre de Mgr Freppel à écouter et vraiment méditer, en 1881. Comment donc, je vous le demande, le rôle de l'Église pourrait-il être de guider le peuple français dans un mouvement dirigé contre elle, de l'aider à accomplir une révolution qui a tout simplement pour but de détruire le règne de Jésus-Christ sur la terre? Car, et telle me paraît être, permettez-moi de vous le dire, l'illusion qui se dégage de toute votre lettre et votre action, vous vous êtes créé une république idéale, chimérique, sans aucun rapport avec la réalité des choses. Ce n'est pas à cet être de raison, à cette pure abstraction que nous avons affaire, mais à la République française, à ce régime caractérisé en 1881 comme en 1793 par la guerre à Dieu, au christianisme et à l'Église. Voilà l'ennemi en chair et en os qui, s'il triomphait définitivement, porterait un coup mortel à la religion catholique en France. Que l'Église ne blâme et ne repousse en principe aucune forme de gouvernement, cela est de toute évidence. Mais ce qui n'est pas moins incontestable, c'est que l'Église catholique blâme et réprouve tout régime devenu en fait synonyme d'irreligion et d'impiété. Encore une fois, étudions ce qui se passait dans le passé pour éviter de renouveler ces mêmes erreurs du passé et pour préparer le futur. Je ne peux aussi que vous conseiller, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de lire et d'étudier à fond un excellent livre qui est un grand classique, le livre « Le libéralisme est un péché » de Don Félix Sarda et Salvani, publié en 1887, et qui explique très bien justement comment ce libéralisme est passé en matière de politique, surtout dans les rapports entre l'Église et l'État. Il y a des passages magnifiques dans ce livre qui devrait être connu de tous les catholiques de tradition, connu et étudié dans tous les catholiques de tradition. Monseigneur Frepel va également attaquer un autre de ses confrères, l'évêque de Langres, tout aussi libéral que le précédent, que Monseigneur Bello des Minières, qui s'appelait Monseigneur Larue. En 1885, voici ce qu'il écrivit. Ne suis-je pas surpris de trouver sous votre plume, Monseigneur, ce que vous me permettez de considérer comme une erreur, l'indifférence absolue en matière politique, ou si vous aimez bien, la séparation absolue de la politique et de la religion. Donc, Monseigneur Frepel, avec raison, condamne donc ceux qui veulent séparer l'Église et l'État. L'Église a toujours vilipendé la séparation de l'Église et de l'État, parce que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Alors, d'autres notes intéressante ici de l'abbé Barbier, je vous les lis. La République en France est le pouvoir de fait, mais non de droit, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Comment la politique, qui n'est pas autre chose que l'application de la morale évangélique au gouvernement des États, pourrait-elle faire abstraction de la religion sans laquelle cette morale manque de base et de sanctions? Comment la religion, gardienne du droit et de la justice, dans quelque ordre des choses que ce soit, pourrait-elle rester indifférente au respect et à la violation de la justice et du droit? Comment n'aurait-elle pas des principes et des règles pour la vie publique, elle dont c'est l'essence d'en avoir pour la vie privée? L'indifférence politique amène inévitablement le triomphe de l'erreur capitale de notre temps, qui est la séparation de l'ordre religieux avec l'ordre civil, politique et social. Malheureusement, on entend beaucoup trop de nos catholiques de tradition en France prétendent qu'il faut avoir une séparation entre l'Église et l'État, alors que l'Église a toujours condamné cette séparation. Séparation de l'Église et de l'État, c'est le travail de Ministère Combes, c'est le travail d'Aristide Briand, c'est le travail de tous les libéraux, et malheureusement le travail permis en quelque sorte d'une certaine façon par le pape Léon XIII avec son ralliement. Vous voyez, il faut avoir le courage de voir les choses en face, pour éviter de renouveler les mêmes erreurs. De nouveau, je me permets d'insister sur ce point très important que nous ne voulons pas, je ne veux pas, moi, en tant que prêtre, participer à la restauration des prêtres des années 60, parce que les prêtres des années 60, pourtant on était avant le Vatican II, avant la Nouvelle Messe, les prêtres des années 60 sont précisément les prêtres qui nous ont amenés au Vatican II. Donc je ne veux surtout pas revenir à ces prêtres des années 60. Je vous rappelle que l'Église en tant que telle n'a pas condamné le principe de la République et même le principe bien compris de la démocratie. L'Église condamne la séparation entre l'Église et l'État. C'est pas la même chose. Mais l'Église remarque aussi, et c'est très bien expliqué dans le livre de Don Sarda et Salvani, « Le libéralisme est un péché », l'Église explique aussi très bien que le fait que les libéraux et les francs-maçons ont toujours eu un amour tout particulier pour les républiques et les démocraties. Cela doit être suffisant pour pousser tous les catholiques à se méfier énormément de ces deux systèmes politiques. On ne peut pas, en fait, dans la pratique, envisager un retour au catholicisme en France sans envisager en même temps un retour à la monarchie en France. Puisque monarchie et catholicisme, en France surtout, sont extrêmement liés comme les deux doigts d'une même main, puisque le roi était le lieutenant du Christ. Il faut bien voir le travail de Sainte Jeanne d'Arc, justement, pour faire consacrer par l'onction royale, par l'onction épiscopale, par faire consacrer le dauphin Charles VII comme roi légitime en France. Pourquoi? Précisément parce que le dauphin, le roi légitime en France, est non pas le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il est son lieutenant sur la terre. Donc, encore une fois, on voit très bien dans tous ces textes combien il est important de comprendre les raisons si vous voulez, des condamnations de l'Église contre la séparation absolue de la politique et de la religion. L'abbé Barbier insiste avec raison sur cette erreur, il appelle ça l'erreur capitale de notre temps, la séparation de l'ordre religieux avec l'ordre civil, politique et social. Donc, l'abbé Barbier cite de nouveau Léon XIII dans son encyclique Libertas sur la liberté. Les fauteurs du libéralisme, dit-il, introduisant dans la vie morale et pratique le principe posé par le rationalisme, l'indépendance absolue de la raison humaine, ces fauteurs du libéralisme confondent la licence avec la liberté. Ils proclament qu'il n'y a dans la pratique de la vie aucune puissance à laquelle on soit tenu d'obéir. La seule loi de l'individu est sa propre raison, sa propre volonté. La seule loi de la société est la raison et la volonté collective, en sorte que les majorités créent seules le devoir, le droit et le devoir. D'autres avouent que les lois même révélées doivent régler la vie des particuliers, mais peu conséquents avec eux-mêmes, ils en affranchissent les États et les sociétés. Ils soutiennent qu'il est permis dans les choses publiques de s'écarter des ordres de Dieu, de légiférer sans en tenir compte, d'où naît cette doctrine pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État, de la neutralité de l'État en matière religieuse érigée en principe. Donc le pape Léon XIII lui-même parle de cette doctrine pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. C'était la doctrine de l'Église à la fin du XIXe siècle. C'est toujours la doctrine de l'Église, mes bien chers frères. Bien sûr, le Concile Vatican II fait tout pour éliminer ces enseignements traditionnels de l'Église, des papes Grégoire XVI, Pie IX, Saint Pie X et après Léon XIII. Donc, ce pape Léon XIII va détailler un petit peu les choses. Je vous lis, je vous donne certaines parties de cette encyclique Libertas Prestantissimum de Léon XIII. Donc, il va passer à la considération de l'examen détaillé des libertés qui sont le fondement du droit nouveau, du droit révolutionnaire. En premier lieu, dit-il, s'offre cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté des cultes, comme on l'appelle, liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. On a déjà vu les condamnations du syllabus, à partir des propositions 15 à 18, les condamnations du syllabus dans ce même domaine. Le pape démontre donc que cette prétendue liberté ne saurait exister non seulement pour l'individu, mais également pour la société. Il réfute et condamne donc l'athéisme social. L'athéisme social qui est partout en France aujourd'hui, surtout, c'est de plus en plus net avec les dernières personnes qui dirigent le pays, surtout la dernière en date, Emmanuel Macron. Et maintenant, dit le pape Léon XIII, poursuivons ces considérations au sujet de la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse tout ce que l'on veut. Assurément, si cette liberté n'est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme et la mesure, une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n'est pas un droit, car le droit est une faculté morale et comme nous l'avons dit et comme on ne peut trop le redire, il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement et sans distinction ni discernement à la vérité, au mensonge, au bien et au mal. Rappelez-vous Pilate qui donne les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai, le mal, dit Léon XIII, on a le droit de les propager. Le vrai, le bien, pardon. On a le droit, dit Léon XIII, de les propager dans l'État avec une liberté prudente, afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, sont des vices et qui corrompent le cœur et les mœurs. Il est juste que l'autorité publique emploie à les réprimer sa sollicitude afin d'empêcher le mal de s'étendre par la ruine de la société. Quant à ce qu'on appelle la liberté d'enseignement, il n'en faut pas juger d'une façon différente. Il n'y a que la vérité, on en saurait douter, qui doit entrer dans les âmes, puisque c'est en elle que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin, leur perfection, et c'est pourquoi l'enseignement ne doit avoir pour objet que des choses vraies. Et cela qu'il s'adresse aux ignorants et aux savants, afin qu'il apporte aux uns la connaissance du vrai, que dans les autres ils l'affermissent. C'est pour ce motif que le devoir de quelconque, de quiconque se livre à l'enseignement, est sans contredit d'extirper l'erreur des esprits et d'opposer des protections sûres à l'envahissement des fausses opinions. Il est donc évident que la liberté dont nous traitons, en s'arrogeant le droit de tout enseigner à sa guise, est en contradiction flagrante avec la raison, qu'elle est née pour produire un renversement complet dans les esprits. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, la liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut, ça c'est la licence, mais le choix, le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous est imposée d'extérieur. Le pape Léon XIII continue. Plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un état, et plus les conditions de cet état s'écartent de la perfection. Et de plus, la tolérance du mal appartenant au principe de la prudence politique doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d'être, c'est-à-dire par le salut public. C'est pourquoi, si elle est nuisible au salut public, ou qu'elle soit pour l'État la cause d'un plus grand mal, la conséquence est qu'il n'est pas permis d'en user, car dans ces conditions, la raison du bien fait défaut. Mais si en vue d'une condition particulière de l'État, l'Église acquiesce à certaines libertés modernes, non qu'elle les préfère en elle-même, mais parce qu'elle juge expédient de les permettre, et que la situation vienne ensuite à s'améliorer, elle usera évidemment de sa liberté en employant tous les moyens, persuasion, exhortation, prière, pour remplir comme c'est son devoir la mission qu'elle a reçue de Dieu, à savoir de procurer aux hommes le salut éternel. Mais une chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté accordée indifféremment à tous et pour tous n'est pas, comme nous l'avons souvent répété, désirable par elle-même, puisqu'elle répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits. Il répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits, et en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité et de la prudence de l'Église ceux qui professent le libéralisme. Donc il peut arriver que l'État soit tenu, ça c'est pas Léon XIII, c'est la Bellafitte qui parle, il peut arriver que dans certains cas, l'État soit tenu, ou que l'Église soit tenue de tolérer les fausses religions. Mais de tolérer les fausses religions, ce qui est parfaitement catholique, ne consiste pas à donner la liberté religieuse à toutes les religions. Le crime de l'amener, et tous ceux qui l'ont suivi, a été justement, non pas de demander la tolérance des fausses religions, mais d'obtenir l'égalité entre toutes les religions devant l'État, en expliquant, plus ou moins, que l'État n'avait pas le pouvoir de décider quelle était la véritable religion, et que donc l'État ne pouvait pas imposer dans son gouvernement la pratique d'une seule religion. N'oublions pas qu'avant Vatican II, tous les États, par exemple d'Amérique du Sud, même d'Amérique centrale en grande partie, étaient des États qui avaient, comme au moins l'Amérique du Sud, qui avaient dans leur constitution un article qui précisait que l'unique religion révélée était que l'unique religion catholique était l'unique religion officielle du pays. Et même en Argentine, il y avait auparavant une loi qui disait, un article de la Constitution qui précisait que puisque l'Église catholique est l'Église officielle du pays, seul un catholique peut être président de la République. Donc un président de la République non catholique ne pouvait pas être élu président. Il est évident que cela s'oppose diamétralement à l'enseignement de Vatican II. Malheureusement, le Vatican II a fait un dégât énorme en amenant justement toutes ces idées libérales pour expliquer qu'il fallait pratiquer la liberté des religions, la liberté de conscience, que toutes les religions se valaient. Résultat des courses, vous avez 70 millions de catholiques qui ont perdu la foi, qui sont passés au protestantisme, entre autres, en Amérique du Sud. Et il faut bien bien comprendre ces choses-là, étudier ces textes afin d'avoir les idées claires sur le sujet. Continuons avec l'enseignement de Léon XIII dans son encyclique Libertas. Beaucoup, enfin, dit le pape, n'approuvent pas cette séparation de l'Église et de l'État, mais ils estiment qu'il faut amener l'Église à céder aux circonstances et obtenir qu'elle se prête et s'accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des sociétés. C'est un peu l'américanisme, là. Opinion honnête si l'on entend d'une certaine manière équitable d'agir qui soit conforme, si l'on l'entend d'une certaine manière équitable d'agir, qui soit conforme à la vérité et à la justice, à savoir que l'Église, en vue d'un grand bien à espérer, se montre indulgence et concède aux circonstances de temps ce qu'elle peut concéder sans violer la sainteté de sa mission. C'est ce que je vous ai expliqué auparavant. L'Église peut tolérer une fausse religion, mais pas lui donner la même liberté qu'à la véritable Église. Mais il envoie tout autrement des pratiques, dit Léon XIII, et des doctrines que l'affaiblissement des mœurs et les erreurs courantes ont introduites contre le droit. Aucune époque ne peut se passer de religion, de vérité, de justice. Grande et sainte chose que Dieu a mise sous la garde de l'Église, à qui il serait dès lors étrange de demander la dissimulation à l'égard de ce qui est faux ou injuste, ou la connivence avec ce qui peut nuire à la religion. Encore une fois, revenez au malheureux exemple de Ponce Pilate. À cause de son libéralisme, justement, eh bien, contre sa volonté propre, il a été obligé d'envoyer notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alors qu'il savait que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas coupable, qu'il savait aussi parfaitement que Barabbas était coupable. Donc, attention, eh bien, chers frères, à avoir les idées claires sur ce sujet. Puis Léon XIII termine en disant: de ces considérations, il résulte donc qu'il n'est aucunement permis de demander, de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement des religions. De l'enseignement et des religions, comme autant de droits que la nature a conférés à l'homme. Si vraiment la nature les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait modérer la liberté humaine. Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Là, enfin, où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent s'en tenir pour faire le bien et avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Église. Car une liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien hors de là jamais. Je répète cette phrase fondamentale. La liberté ne doit être réputée légitime quand tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien, hors de là, jamais. Donc, Léon XIII explique bien donc, que la liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Ce n'est pas le pouvoir, la liberté, de se mouvoir dans le mal. En définitive, dit Léon XIII, réclamer la liberté de l'Église et faire reconnaître son droit d'enseigner, ne lui demandait que les concessions compatibles avec sa mission divine, subir quand elle s'impose les libertés modernes et les tolérer en vue d'un plus grand mal à éviter, mais en continuant de les tenir pour mauvaises, déraisonnables, non désirables en elles-mêmes, en user exclusivement pour le bien, ne les accepter qu'avec les tempéraments nécessaires pour qu'elles ne dégénèrent pas en licence. Voilà l'enseignement officiel de Léon XIII. Ce n'est pas le contre-pied des opinions théoriquement admises par les catholiques libéraux, mais c'est à peu près celui de leur tactique, et c'est cette tactique que Grégoire XVI et Pie IX avaient dénoncée comme déplorable. Eh bien, chers frères, comme il est important d'avoir les idées claires sur le sujet, je sais bien que quand on cite ces longs textes, c'est un petit peu pénible de devoir citer des longs textes de doctrine comme ça, mais on a besoin de, si vous voulez, de nourrir notre intelligence avec le vrai. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Nourrir les intelligences avec le vrai. Donc demandons, mes bien chers frères, demandez cet esprit d'église. Nous demandons cet esprit d'église. Pensez, goûtez comme l'église a toujours pensé, a toujours enseigné, a toujours goûté. Loin de nous, mes bien chers frères, loin de nous, comme disait le pape Saint-Pédis, loin de nous l'esprit de nouveauté. Loin de nous l'esprit d'indépendance. N'oubliez pas qu'à la base du péché d'Adam et Ève et du péché des mauvais anges, donc de Lucifer, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'orgueil. L'orgueil qui a entraîné cette phrase épouvantable, ce blasphème épouvantable, « Je ne servirai pas, non serviable. » Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, malheureusement, tous ceux qui suivent Bergoglio et sa clique, tous ceux qui suivent l'église de Vatican II, répètent malheureusement le cri de guerre du démon. « Je ne servirai pas, je n'accepte pas d'enseigner ce que l'église catholique a toujours enseigné. Il y a une coupure maintenant, on change tout, on enseigne le contraire de ce que l'église catholique a enseigné pendant 20 siècles. » Ce n'est pas possible, mes bien chers frères. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous former l'intelligence avec toutes ces choses. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je m'excuse encore une fois pour ces problèmes techniques que j'ai eus. Je ne peux pas trouver le temps de recommencer mes conférences. Ce prétexte, il y a une coupure au milieu, donc je reprends à l'endroit dès que je me suis rendu compte qu'il y avait des coupures. Bon, ce n'est pas l'idéal pour la présentation des conférences, mais je fais ce que je peux. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.